Voilà. Bien, bonjour à tous alors. Donc c'est une conférence donnée par l'association Philopop, association populaire de philosophie du Havre, en partenariat avec la bibliothèque Niméière. Et nous abordons ce matin donc le thème « Les philosophes des Lumières face à la traite négrière et à l'esclavage colonial ». Alors, vous avez normalement chacun un plan de la conférence, ça peut aider. Et puis, vous avez des textes qui serviront de support. Alors, la question que nous allons traiter est la suivante. Comment a pu se former en France, au cours du XVIIIe siècle, la conscience du caractère criminel de la traite négrière et de l'esclavage colonial? Comment est-on parvenu aux deux abolitions, que sont d'abord celles de 1794 et ensuite celles de 1848? Alors, la première abolition, pour rappel, est proclamée en France par la Convention nationale le 4 février 1794, 4 ans après la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de juillet 1789, mais elle est révoquée par le premier consul Bonaparte en 1802. Il va devenir Napoléon Ier. La deuxième abolition est décrétée le 27 avril 1848 par le gouvernement provisoire de la Seconde République sous l'impulsion de Victor Schœlcher. Et on devine, il fallait d'abord être convaincu du caractère illégitime et scandaleux de l'esclavage pour le dénoncer et en revendiquer l'abolition. Or, ce n'est aucunement le cas au début du XVIIIe siècle et pendant encore longtemps. À l'égard de la souffrance des Africains déportés massivement en Amérique. On compte 11 millions d'Africains en tout, tous pays confondus sur plusieurs siècles. Eh bien, à l'égard de cette souffrance, règne la plus grande indifférence. La traite négrière et l'esclavage colonial sont très largement considérés comme une bonne chose, une chose utile à l'économie. Nombreux sont les économistes qui en justifient la pratique, comme cet éminent collègue de Montesquieu à l'Académie de Bordeaux, Jean-François Melon, qui fait paraître un essai politique sur le commerce dans lequel il préconise même la réintroduction de l'esclavage en Europe. L'esclavage a été interdit en 1315 par Louis X le Hutin et le servage a été supprimé. Quant au philosophe de référence, il s'appelle Grotius, Pufendorf, Burlamaqui, Thomas Hobbes, il est plus connu, eh bien, il proclame que les hommes sont libres et égaux naturellement, mais ils admettent que les hommes puissent consentir à s'asservir, soit pour assurer leur subsistance, soit en cas de guerre, lorsqu'ils sont vaincus, pour donner leur liberté aux vainqueurs en échange de la vie sauve. En opposition à ces théoriciens, Montesquieu est le premier philosophe qui dénonce le caractère illégitime de l'esclavage en réfutant méthodiquement, les uns après les autres, les arguments par lesquels ils prétendent le justifier. Dans ce fameux grand ouvrage qui s'appelle « L'esprit des lois », qui est publié en 1748, première édition. Alors, en donnant ainsi une assise théorique à l'anti-esclavagisme, Montesquieu ouvre la voie aux autres philosophes comme Voltaire, Rousseau, Diderot, Condorcet et bien d'autres encore, qui vont prendre la relève et dénoncer à leur tour l'esclavage. L'abolition de l'esclavage serait ainsi à mettre au crédit des philosophes des Lumières. Alors, par lumière, rappelons ce que cela signifie. Par lumière, il faut entendre un mouvement d'opinion irrigué par les idées des philosophes qui, en développant la raison humaine, permet de combattre les préjugés et la superstition et de vaincre la servitude en promouvant la liberté et la justice. Toutefois, cette présentation des choses est peut-être beaucoup trop simple. Le regard que nous portons aujourd'hui sur les injustices du passé colonial nous conduit à nous en démarquer, à prendre nos distances avec ce récit de l'émancipation par lequel on définit les Lumières. Loin d'avoir combattu l'esclavage colonial, les Lumières ne s'en sont-elles pas accommodées? Ne comportent-elles pas une part d'ombre? N'ont-elles pas servi souvent d'alibi à la domination coloniale? Ces interrogations surgissent au moment où, précisément, la question de la traite négrière et de l'esclavage colonial ont refait surface depuis ces 30 dernières années, mais ça a commencé au fond après la décolonisation, soit plus de 150 ans après l'abolition de l'esclavage par Victor Schœlcher en 1848. Alors, vous le savez tous, depuis la loi du 21 mai 2021, dite loi Taubira, la traite négrière et l'esclavage colonial sont considérés comme des crimes contre l'humanité. Et dans le droit fil de cette loi, le 10 mai 2006 a été la première journée nationale de commémoration de la traite négrière, de l'esclavage et de leurs abolitions au pluriel, puisqu'il y en a deux. Alors, il s'agit ainsi d'honorer la mémoire des victimes de ce crime inouï que l'on a longtemps tu et qui s'est traduit par la déportation donc de 11 millions d'Africains par les États européens dans leurs colonies d'outre-mer. Ainsi, au Havre, comme à Honfleur, comme à Rouen, la journée du 10 mai 2023 a initié une série d'expositions sur l'activité négrière des ports normands, en s'appuyant sur les travaux d'une équipe d'historiens sous la direction d'Éric Saunier de l'Université du Havre. Et bien sûr, ils sont ici dans cet ouvrage collectif dont je recommande la lecture. Esclavage, les ports normands dans la traite atlantique. Alors, prendre conscience de ce crime passé, que furent solidairement la traite négrière et l'esclavage colonial, donc prendre conscience de ce crime passé, c'est non seulement en finir avec l'occultation qui en a été longtemps faite, mais c'est aussi mesurer qu'il a laissé des traces durables en marquant profondément les rapports sociaux des anciennes colonies. Et c'est pourquoi il paraît difficile de s'en tenir au récit mythifié selon lequel les Lumières auraient permis d'abolir l'esclavage en triomphant des préjugés qui maintenaient et justifiaient son existence. L'esclavage colonial, en effet, n'est pas seulement un crime du passé, d'un passé aboli et disparu, c'est une injustice persistante, comme on peut le voir quand on examine ce qui s'est passé après l'abolition de 1848. Quelques mots là-dessus. L'abolition de 1848 a certes émancipé juridiquement les esclaves, mais elle a aussi perpétué l'esclavage sous d'autres façons. En effet, lorsque les esclaves furent émancipés, ils ne furent pas dédommagés des torts qu'ils avaient subis par leur mise en esclavage, étant donné qu'avant l'abolition, ils n'étaient pas juridiquement des personnes, mais des biens meubles, comme le spécifiait le Code noir, qui était le texte qui réglementait leur état depuis 1685. Les propriétaires d'esclaves furent en revanche indemnisés pour la perte financière que représentait l'affranchissement de leurs anciens esclaves. Et en outre, dès le lendemain de l'abolition, des dispositions furent prises aux Antilles pour éviter que les anciens esclaves, devenus libres, puissent devenir propriétaires de quelques lopins de terre. Tout fut fait pour préserver la structure des grandes plantations et contraindre les nouveaux libres à se faire réembaucher par leurs anciens maîtres. Ainsi, dès le mois de mars 1848, le directeur de l'intérieur, un haut fonctionnaire de l'époque, écrivait dans une note, je cite, que les anciens esclaves doivent prouver que la liberté n'est pas le droit de vagabonder, mais le droit de travailler. Au nom de la lutte contre le vagabondage, les travailleurs devaient donc attester de leur statut d'employé par le port d'un livret comportant des informations sur leur identité, ainsi que les visas de leur mère qu'ils devaient renouveler annuellement. Une grande partie de ces dispositions se maintinrent jusqu'en 1946, date à laquelle on est passé au département. Ainsi, quand au moment, vous savez, du scandale du chlordécone aux Antilles, en 2020, de jeunes Antillais s'en prirent à la statue de Victor Schœlcher. On jugea bien sûr leur geste répréhensible et on le jugea absurde. Alors certes, il se trompait de cible parce que Victor Schœlcher était sincèrement abolitionniste et pour sa part, il avait, je crois, été hostile à l'indemnisation des anciens propriétaires d'esclaves. Mais que visait-il surtout à travers le déboulonnage de sa statue, si ce n'est une représentation idéalisée de l'abolition qui masque la persistance de l'oppression coloniale qui a remplacé l'esclavage par d'autres formes d'exploitation. Par là, il rejetait ces commémorations de l'abolition par lesquelles la République accueillit les cendres de Victor Schœlcher, de Félix Éboué, au Panthéon, en 1949, où il rejetait aussi ces célébrations qui célèbrent les grands idéaux des Lumières pendant qu'on omet d'évoquer Toussaint Louverture, pendant qu'on oublie les révoltes d'esclaves, l'insurrection de Domingue, qui permit à d'anciens esclaves de briser leurs chaînes et de proclamer eux-mêmes sur leur propre territoire, dans l'île de Saint-Domingue, qui va devenir Haïti, la première abolition d'esclavage en août 1793. Et cette abolition a pourtant eu un rôle déterminant dans la proclamation par les députés de la Convention nationale de l'abolition de 1794. Alors, ainsi, qu'on se refuse dans ce contexte à célébrer pieusement la valeur émancipatrice des Lumières, qu'on dénonce l'oppression et l'injustice coloniale sous le masque de l'universalisme qu'elle proclame, est-ce qu'il faut pour autant conclure que les Lumières ont été uniquement un alibi, voire un instrument de la colonisation? C'est le pas qu'ont franchi, en tout cas, un certain nombre de ces critiques, comme par exemple Louis Salamolens, philosophe, dans un ouvrage qui est paru la première fois en 1987, consacré à l'étude du Code noir, j'y reviendrai, qui se termine d'ailleurs par une mise en cause sévère des philosophes des Lumières, à commencer par Montesquieu. Et son livre s'appelle « Le Code noir ou le calvaire de Canaan ». Alors, on aura donc à examiner un certain nombre de ses critiques. Il n'est pas le seul. Ainsi, le problème sera de savoir quelle position et quel rôle ont eu vraiment les philosophes des Lumières. Je me limiterai aux philosophes français des Lumières, parce qu'il n'y a pas que la philosophie française des Lumières. Philosophes français des Lumières, dont je rappelle quelques grands noms, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Diderot, Condorcet. Alors, est-ce qu'ils ont fermement combattu la traite négrière et l'esclavage colonial, est-ce qu'ils ont vraiment contribué à son abolition ou en ont-ils seulement condamné le principe au nom de l'universalité des droits tout en justifiant la pratique pour des motifs politiques et économiques? C'est ce que pensent Louis Salamolens et un certain nombre d'auteurs à sa suite. Alors, étant donné les limites de la conférence, et aussi parce qu'il est considéré comme le premier philosophe à avoir posé les principes théoriques de l'anti-esclavagisme, eh bien, je privilégierai la figure de Montesquieu, qui consacre un livre entier à la question de l'esclavage, le livre 15 de l'Esprit des lois, donc publié en 1748. Montesquieu mérite-t-il le statut fondateur qu'on lui reconnaît? La question porte au-delà de son cas, puisqu'avec lui, c'est la question du rôle des Lumières qui va se poser. Ont-elles contribué à l'émancipation ou n'ont-elles servi qu'à légitimer l'oppression coloniale? Alors voyons d'abord quels sont les griefs adressés à Montesquieu. Même si vous ne connaissez pas l'auteur, ça va tout de même vous parler. Il serait silencieux, ou il aurait été silencieux, sur la pratique de l'esclavage colonial, de cet esclavage que Louis Salamolens appelle l'esclavage afro-antillais. Il dénonce l'esclavage d'une manière générale, dans le principe. Il réfute les arguments par lesquels on prétend le justifier, mais il ne fait aucune mention du Code noir, ce fameux texte de loi promulgué en 1685 qui réglemente l'esclavage dans les colonies. Le terme de Code noir ne figure même pas dans le texte de Montesquieu. Le Code noir n'a rien pourtant de confidentiel, il n'est frappé d'aucun secret d'État. Il est publié dans toutes les paroisses de Saint-Domingue. Alors, quelques mots au sujet du Code noir, même si vous connaissez un peu, il faut même en parler. Comme le montre le préambule du Code noir, le premier article, la justification officielle de la traite, c'est l'évangélisation des Noirs. C'est la perspective de faire de bons chrétiens qui aurait décidé ainsi Louis XIII à promulguer le Code noir. Et il faut ici rappeler que depuis 1315, l'esclavage est interdit en France et le servage supprimé. Alors je cite, en l'arrangeant un peu, un extrait du préambule. Comme nous désigne Sa Majesté royale. Comme nous devons également nos soins à tous les peuples que la divine providence a mis sous notre obéissance. Après avoir été informés du besoin qu'ils ont de notre autorité et de notre justice pour y maintenir la discipline de l'Église catholique, apostolique et romaine, nous décidons de régler ce qui concerne l'état et la qualité des esclaves dans les îles. Fin de citation. Alors, ce Code noir, promulgué en 1685, il est l'année même où il y a la révocation de l'édit de Nantes. Ce n'est pas un hasard. Effectivement, l'édit de Nantes, vous le savez, interdit les autres cultes. La seule religion catholique, effectivement, peut être pratiquée. C'est la seule religion qui doit être pratiquée. Et par conséquent, le Code noir va exclure de la traite, officiellement en tout cas, les juifs et les hérétiques que sont les protestants. Ce code contient 60 articles. Il réglemente la vie des esclaves, leur nourriture, leurs vêtements, et puis la liste impressionnante des châtiments qui leur sont administrés en cas de délit et de crime. Les maîtres, n'ont pas de compétence pour infliger eux-mêmes à leurs esclaves les châtiments les plus sévères, la mort, la torture et mutilation. Tout au plus, article 42, peuvent-ils légalement les faire enchaîner et les faire battre de verges ou de cordes. Le châtiment le plus banal est le fouet et le marquage du corps à la fleur de lys, symbole de l'autorité royale. Pour les voleurs, un mois de fuite vaut aux fugitifs les oreilles coupées et la fleur de lys marquée sur une épaule. À la première récidive, le marquage de l'autre épaule et le jarret coupé. La troisième fois, c'est la mort. Article 38. Alors, soit dit en passant, les châtiments qui sont infligés ne choquent pas forcément les Français de métropole, la grande majorité des paysans, qui sont habitués à l'époque à des châtiments assez violents, hein, si vous voulez. C'est-à-dire, pour nous, c'est extrêmement choquant, mais à l'époque, ça n'est pas tant que ça, si vous voulez. Le Code noir fixe aussi des obligations aux maîtres envers leurs esclaves. L'article 27 enjoint ainsi aux maîtres d'entretenir leurs esclaves malades ou trop vieux pour travailler et de ne jamais les abandonner sous peine d'une amende. Ça ne veut pas dire que ça sera respecté, hein. Dès l'article 7, le noir est assimilé à une marchandise. Et dans les articles 44 et 46, il est défini comme un bien meuble qui peut être vendu, saisi ou affecté à un héritier. En bref, l'esclave est assimilé à une chose. Donc, pas un mot de Montesquieu sur le Code noir, lui qui pourtant évoque par ailleurs si volontiers toutes sortes de systèmes de législation, comme les lois romaines, les lois de Moïse, etc., etc. Alors, Montesquieu évoque bien l'esclavage colonial dans son fameux chapitre 5 de l'esclavage des nègres, mais il n'en examine pas la pratique. Et surtout, c'est le deuxième grief, il en parle avec légèreté. Montesquieu serait indifférent au sort des esclaves noirs, comme en témoigne le ton léger de l'ironie et de la plaisanterie qu'il utilise sur un sujet aussi grave, aussi tragique, dans son fameux chapitre que nous allons bientôt lire. Ce reproche n'est pas celui de Salamolins, c'est déjà celui que Bernardin de Saint-Pierre, notre philosophe à vrai, adresse à Montesquieu, et pas qu'à Montesquieu, aussi à Voltaire, dans le post-scriptum de la 12e lettre du voyage à l'île de France, paru en 1773. Et je cite ici cet extrait. Voilà ce que Bernardin de Saint-Pierre écrit. « Je suis fâché que les philosophes qui combattent les abus avec tant de courage, n'aient guère parlé de l'esclavage des Noirs que pour en plaisanter. Ils se détournent au loin. Ils parlent de la Saint-Barthélemy, du massacre des Mexicains par les Espagnols, comme si ce crime n'était pas celui de nos jours et auquel la moitié de l'Europe prend part. » Et pire encore, selon certains critiques, cette fois-ci contemporains, il y aurait même une complaisance de Montesquieu à l'égard des préjugés racistes. Il joue avec eux. Troisième grief, la condamnation que fait Montesquieu de l'esclavage n'est pas aussi nette qu'elle apparaît au départ, puisqu'il admet son existence dans les pays chauds, conformément à sa théorie des climats, selon laquelle la chaleur incline à la servitude. On verra ce qu'il en est, hein. Pas sûr que ce soit vrai. Quatrième et dernier grief, la condamnation que Montesquieu fait de l'esclavage se trouve contredite par la deuxième partie de son livre 15, où Montesquieu ne se préoccupe plus que d'indiquer comment prévenir les abus et les dangers de l'esclavage. Son souci n'est donc pas d'abolir l'esclavage, mais de l'encadrer juridiquement, d'éviter ses abus, au fond comme le code noir, et aussi ses dangers. Mais de quel danger peut-il s'agir ? Tout simplement, le danger de voir les esclaves se révolter et de mettre en péril l'État. Ainsi, on peut se poser la question, comme ça la malince, Montesquieu est-il vraiment anti-esclavagiste ? La dénonciation de l'esclavage par les grands principes ne couvre-t-elle pas en définitive beaucoup d'accommodements sur le plan pratique ? En cherchant à encadrer juridiquement l'esclavage, Montesquieu ne lui apporte-t-il pas une forme de consécration ? Si j'en juge en tout cas par ce qu'écrit Louis Salamolins, le cas Montesquieu ici est exemplaire, il montrerait toutes les ambiguïtés des philosophes des Lumières au sujet de l'esclavage colonial. Alors effectivement, Salamolins ensuite passe au cas Rousseau et puis à celui d'autres philosophes. Alors, qu'en est-il ? Voyons si ces griefs sont justes. Alors, ici, il ne peut pas être question, bien sûr, de lire le livre 15 en son entier, mais de sélectionner seulement des extraits significatifs qui portent sur les points évoqués. Et pour bien mesurer leur portée, eh bien, nous nous efforcerons de les lire en les mettant en rapport avec l'opinion dominante du moment, c'est-à-dire du moment où, justement, Montesquieu rédige son œuvre, donc avant dans les années 30-40, si vous voulez. Premièrement, est-il vrai que Montesquieu est silencieux sur la pratique de l'esclavage colonial ? C'est inexact. Non seulement parce qu'il l'aborde dans son célèbre chapitre 5 sur l'esclavage des nègres, mais aussi parce qu'il l'englobe explicitement dans la définition de l'esclavage qu'il donne au début du livre 15. Et vous avez cette définition dans le premier texte, au début. Je lis « L'esclavage proprement dit est l'établissement d'un droit qui rend un homme tellement propre à un autre homme qu'il est le maître absolu de sa vie et de ses biens. » Et comme il l'explique ensuite, dans cette définition, Montesquieu comprend aussi bien l'esclavage antique, que l'esclavage moderne, que l'esclavage colonial, et aussi bien que le servage et l'esclavage. Ce qu'il appelle, alors il appelle l'esclavage au sens strict, l'esclavage proprement dit, ou encore, comme il le dit dans une note, l'esclavage pris à la rigueur, et je cite cette note, l'esclavage pris à la rigueur tel qu'il était chez les Romains et qu'il est établi dans nos colonies. Donc le mot colonie est prononcé tout de même. En revanche, il est vrai que Montesquieu ne mentionne pas explicitement le Code noir, même s'il y fait, ça et là, quelques allusions, mais de manière fort discrète. Alors pourquoi une telle réserve ? Alors on peut penser, c'est là une hypothèse, que c'est par prudence. Il serait quand même assez risqué de s'attaquer de front à l'autorité royale, de mettre en cause ouvertement le Code noir. Et on notera d'ailleurs que Montesquieu n'est pas le seul à pratiquer cette réserve. Dans l'article qu'il écrit ensuite dans l'encyclopédie sur l'esclavage, le chevalier de Jaucourt, j'en reparlerai, chevalier de Jaucourt, un encyclopédiste, fait un plaidoyer radical en faveur de son abolition, mais lui aussi se garde bien de nommer explicitement le Code noir. Je passerai très rapidement sur les premiers chapitres du livre 15, pourtant très importants, mais on n'a pas le temps, où Montesquieu réfute méthodiquement, les uns après les autres, les faux arguments prétendument juridiques par lesquels un certain nombre de philosophes, je les ai nommés tout à l'heure, justifient l'esclavage. Je rappelle, selon ces philosophes, les hommes sont libres et égaux naturellement, mais ils peuvent consentir à s'asservir, soit quand ils sont faits prisonniers de guerre, en échangeant leur liberté contre la vie sauve auprès de leurs vainqueurs, soit pour assurer leur subsistance quand ils sont dans le besoin. Mais après avoir méthodiquement contre-argumenté, Montesquieu laisse place à l'ironie dans ce fameux chapitre 5 de l'esclavage des nègres. Pourquoi ? Eh bien parce que pour contrer ici les arguments des négriers, l'argumentation est assez vaine, il suffit de les traiter par le mépris, en recourant justement à l'ironie. Alors, cette fameuse ironie en laquelle Bernardin de Saint-Pierre voit une sorte de jeu mondain. Montesquieu parlerait de la condition des esclaves noirs sur le ton de la plaisanterie. Cette ironie aussi qui fait que bien des professeurs aujourd'hui n'osent pas aborder ce texte en classe car ils craignent que les élèves ne le lisent au premier degré. Pas se cacher. Alors, pour montrer le caractère grotesque et absurde des arguments des négriers, eh bien, que fait Montesquieu ? Il leur prête sa voix et il leur donne ainsi la parole. Ainsi commence le chapitre, vous lisez avec moi, c'est les colonnes de droite. Si, vous voyez, chapitre 5 de l'esclavage des nègres, si j'avais à soutenir le droit que nous avons eu de rendre les nègres esclaves, voici ce que je dirais. Et il va faire alors apparaître, grâce au procédé de l'antiphrase, les véritables motifs de l'exploitation des esclaves africains. Alors, il y a d'abord les motifs d'ordre économique. Le premier argument, deuxième paragraphe, justifie la traite négrière. Je lis. Les peuples d'Europe ayant exterminé ceux de l'Amérique, ils ont dû mettre en esclavage ceux de l'Afrique pour s'en servir à défricher tant de terres. Toute l'ironie ici, bien sûr, consiste dans la manière de rappeler le fait historique. Bien sûr que les Noirs ont été déportés en Amérique pour y remplacer les Indiens qui avaient été exterminés. Et toute l'ironie dans le « ont dû », hein, dans ce verbe « ont dû », qui donne aux origines de la traite négrière un aspect assez rassurant, de rationalité. En somme, c'est assez normal, c'est dans l'ordre des choses. C'était une nécessité économique, hein, réalisme économique, si vous voulez. Donc, et qui peut raisonner ainsi, évidemment ? Qui vise Montesquieu ? Les négociants, les économistes, comme son collègue Jean-François Melon, tous ceux que Montesquieu appelle au chapitre 9, je cite, « la petite partie riche et voluptueuse de chaque nation ». Deuxième argument, paragraphe 3, l'argument des coûts de production du sucre. Le sucre serait trop cher si l'on ne faisait travailler la plante qui le produit par des esclaves. L'ironie ici, bien sûr, consiste dans la disproportion, elle consiste à souligner la disproportion qui existe entre la futilité de la faim, il s'agit de produire du sucre, et le sucre, c'est une denrée luxueuse, hein, pour les Européens. Donc, disproportion entre la futilité de la faim et puis la monstruosité du moyen, l'utilisation d'esclaves. Des esclaves pour que le sucre coûte moins cher. Alors, est-ce que l'ironie est un jeu gratuit ici ? Aucunement. Si l'on songe aux opinions dominantes de l'époque, il faut ici rappeler que Montesquieu est magistrat au Parlement de Bordeaux et qu'il est membre aussi de son académie. Et il sait très bien que son propos va toucher directement les négociants bordelais qui tirent profit de la traite négrière. Bordeaux, comme Nantes, comme La Rochelle, comme Le Havre, c'est alors un port négrier dont l'activité négrière est certes moins importante que celle de Nantes, mais dont la prospérité vient pour une bonne part de la réexpédition vers le nord des denrées coloniales obtenues grâce à l'esclavage des Noirs. Et je vous rappelle qu'il a pour collègue à l'Académie un économiste de renom qui non seulement juge la traite et l'esclavage nécessaire, mais souhaite en outre qu'on autorise l'importation en France d'esclaves asiatiques. Il faudrait faire venir des esclaves asiatiques sur le sol français. Alors, aux arguments économiques succèdent ensuite les considérations sur l'essence de l'humanité et sur Dieu. Alors ici, il suffit d'énoncer les questions absurdes et grotesques que les négriers européens et chrétiens se posent pour en faire apparaître tout le ridicule et montrer ainsi qu'elles leur permettent d'arriver à la conclusion qu'ils souhaitent. Qu'est-ce qu'ils souhaitent ? Exploiter les Noirs, pouvoir exploiter les Noirs sans scrupule, puisqu'il est établi que ce sont des sous-hommes, étant donné la couleur de leur peau. Alors, lisons les trois paragraphes qui viennent. On ne peut... Attendez, c'est le précédent d'abord. Ceux dont il s'agit sont noirs depuis les pieds jusqu'à la tête. Et ils ont le nez si écrasé qu'il est presque impossible de les plaindre. On ne peut se mettre dans l'esprit que Dieu, qui est un être très sage, ait mis une âme, surtout une âme bonne, dans un corps tout noir. Il est si naturel de penser que c'est la couleur qui constitue l'essence de l'humanité que les peuples d'Asie, qui font des eunuques, privent toujours les Noirs du rapport qu'ils ont avec nous d'une façon plus marquée. Alors, petite allusion ici, qu'il faut expliquer tout de même, parce que veut dire, à quoi fait allusion ici Montesquieu ? Au fait que les eunuques noirs qui sont employés par les despotes orientaux qui imposent leur autorité dans le sérail oriental, eh bien, les eunuques noirs subissent une mutilation complète au lieu d'une simple ablation des testicules. Vous voyez ? Quand c'est un blanc, c'est moins radical. Oui, bon. Alors, évidemment, voilà pourquoi Bernard Saint-Pierre trouve que, franchement, la plaisanterie est très, très mauvais goût. Mais là encore, est-ce que l'ironie est un jeu gratuit ? Non, c'est une réaction réfléchie à l'opinion dominante du moment. Montesquieu, ici, se moque des débats absurdes qui ont lieu sur les causes de la couleur des Noirs et qui excitent au plus haut point la curiosité de ses contemporains. Sachez que l'Académie de Bordeaux avait proposé pour son concours de 1741 le sujet suivant, je cite, « la cause physique de la couleur des nègres, de la qualité de leurs cheveux, et la dégénération de l'une et de l'autre. » Vous avez 4 heures. D'une manière générale, le problème est de savoir pourquoi les Noirs ne sont pas blancs. Et pourquoi Dieu a fait d'eux des êtres inférieurs. Et s'ils sont inférieurs, ils ont une vocation servile, forcément. Jusqu'alors, l'argument qui justifiait l'infériorité des peuples noirs était fondée sur un épisode biblique, celui au cours duquel Canaan, petit-fils de Noé, était devenu noir parce qu'il avait été maudit par son grand-père Moïse pour une faute commise par son père, Cham. Et voilà pourquoi les Noirs sont noirs. Mais comme on l'a vu, se dessine à l'époque un discours à prétention scientifique qui est en train de prendre le relais du discours théologique. Et au XIXe siècle, cela donnera des théories sur l'inégalité des races, comme celle de Gobineau. Enfin, après les arguments économiques, après les considérations sur la couleur de la peau, vient l'argument de la sottise des Noirs. Alors, c'est là, le paragraphe 7, hein, je ne veux pas tout vous lire, hein, c'est le paragraphe 7. Et une preuve, ligne 26, une preuve que les nègres n'ont pas le sens commun, c'est qu'ils font plus de cas d'un collier de verre que de l'or, qui, chez des nations policées, est d'une si grande conséquence. Alors, ici, allusion très claire à la pratique des bateaux négriers qui achètent leur bétail humain à peu de frais sur les côtes de l'Afrique. Quelques colliers de verre suffisent, car l'absence de sens commun des Noirs africains qui vendent leurs congénères, hein, aux Blancs, eh bien, leur fait mépriser l'or, qui a tant de valeur pour les Européens. Et ici, l'antiphrase est assez limpide. Le véritable sens commun ne consiste certainement pas dans la quête démesurée de l'or à laquelle se livrent les Européens, dans leur grande cupidité. Et vous avez des développements dans l'esprit des lois sur ce sujet, à propos justement de la perte de la société de l'État espagnol, de la monarchie espagnole à cause de l'or. Bon, enfin, je ne reviens pas là-dessus. Mais en tout cas, rien dans ce chapitre 5 sur l'esclavage des nègres ne justifie les griefs, ici, que l'on adresse à Montesquieu. Il ne passe aucunement sous silence la traite négrière et l'esclavage colonial, et l'ironie, ici, ne consiste pas à traiter le sujet avec légèreté, juste pour plaisanter, elle est une arme. C'est l'arme, d'ailleurs, des philosophes du XVIIIe siècle. C'est l'arme des philosophes des Lumières, c'est l'arme aussi de Voltaire. Elle est l'arme suprême du philosophe qui traite avec mépris l'opinion dominante et dénonce l'injustice et l'absurdité de ses arguments. Troisième chef d'accusation, la condamnation que fait Montesquieu de l'esclavage n'est-elle pas à géométrie variable, comme on dirait aujourd'hui ? Alors, il justifierait l'esclavage dans certains pays, dans certains contextes, notamment celui des pays chauds. Alors, ici, cette critique repose sur un contresens. Montesquieu ne justifie en aucun cas l'esclavage. Il explique sa présence dans un certain nombre de contextes. Et comme on dit aujourd'hui, expliquer n'est pas justifié. Alors, quels sont ces contextes ? Le contexte politique des pays despotiques, d'abord. C'est-à-dire ces pays où règne ce que Montesquieu appelle l'esclavage politique. Regardez le chapitre 1, hein, début du deuxième paragraphe, premier texte, en haut à gauche, deuxième paragraphe. Dans les pays despotiques, où l'on est déjà sous l'esclavage politique, l'esclavage civil est plus tolérable qu'ailleurs. Ça ne veut pas dire que Montesquieu trouve que c'est bien. Mais voilà ce qu'il en est. C'est-à-dire que c'est là un fait. Dans un pays où les hommes ont tout à craindre du despote, où ils sont politiquement esclaves, eh bien, il leur paraît souvent préférable d'assurer leur survie auprès d'un maître, auprès d'un seigneur. Ils acceptent d'être son esclave en échange de sa protection. Hein ? Et puis, il y a aussi, et c'est ça surtout qui fait problème, il y a aussi le contexte géographique des pays chauds. Alors, dans le livre précédent, le livre 14, Montesquieu a montré que le climat d'un pays a des effets sur la sensibilité des hommes et sur les mœurs. Il a une sorte d'approche médicale, hein, de la question. Ainsi, un climat chaud, en rendant les hommes passifs, paresseux et lâches, les prédispose à la servitude. La chaleur du climat favorise l'emprise d'un gouvernement despotique et la mise en place de l'esclavage. Alors, quoi qu'on pense, je ne peux pas la développer, quoi qu'on pense de la théorie du climat de Montesquieu, il ne considère pas le climat comme une fatalité. Les effets du climat, effectivement, ont un impact, hein, mais ces effets peuvent être contrecarrés par l'éducation et la législation. La chaleur du climat, certes, favorise l'esclavage, mais elle ne le rend pas inévitable. Et même Montesquieu va plus loin. Il suggère, dans les chapitres 8 et 9, que l'argument du climat chaud est fallacieusement invoqué, je cite, « par la petite partie riche et voluptueuse de chaque nation ». Pour justifier et pour maintenir l'esclavage colonial dans leurs seuls intérêts. Or, c'est plutôt l'institution de l'esclavage qui rend les hommes paresseux et peu productifs. Et contrairement à ce que pense cette élite que fréquente Montesquieu, l'abolition de l'esclavage serait beaucoup plus utile que son maintien. Ces élites affirment que l'esclavage est une nécessité économique, qu'on ne pourra jamais se passer d'esclaves pour effectuer certains travaux pénibles, comme ceux de la mine, par exemple. Aucun homme libre n'accepterait de faire ces travaux. Eh bien, que leur rétorque Montesquieu. Il leur rétorque que des travailleurs libres sont bien plus productifs que des esclaves quand ils sont encouragés par l'espoir d'un gain pour accomplir une tâche pénible. Et il se fonde ici sur ce qu'il a observé lors de son voyage, un grand voyage qu'il a fait en Europe, je crois que c'était dans le 1720 à peu près, quand il a visité les mines de Hongrie. C'est cité, hein, vous verrez, vous lirez. Et vous voyez, il a observé là des travailleurs qui étaient attachés à leur métier, même s'il était extrêmement pénible, parce qu'ils étaient payés et il y avait une certaine sécurité de l'emploi. Et à cet argument, il ajoute celui du progrès technologique. Ce qu'il appelle la commodité des machines. Eh bien, la commodité des machines peut aussi contribuer à supprimer un certain nombre de travaux pénibles effectués par des esclaves. Et ça, il le dit avant Adam Smith. Mais, donc, comme on peut le voir, Montesquieu ne se contente pas ici de dénoncer l'esclavage dans son principe. Il veut montrer que sa suppression est tout à fait envisageable et qu'elle ne porterait aucunement préjudice à l'économie, bien au contraire. Toutefois, il ne s'agit là pour Montesquieu que d'un espoir lointain. En attendant, il faut se confronter à la réalité telle qu'elle est. Il faut prendre acte de l'existence de l'esclavage colonial. Et il y a ici, c'est indéniable, un contraste manifeste entre l'audace des premiers chapitres du livre 15, et puis, où là il condamne franchement l'esclavage, et puis la dernière partie du livre, où il paraît au contraire s'en accommoder. Il ne se préoccupe plus en effet que d'indiquer comment en prévenir les abus et les dangers. Je cite Montesquieu, je ne vais pas photocopier ça, hein. Je cite Montesquieu, une phrase très simple, « Il faut, écrit-il, que les lois civiles cherchent à en ôter d'un côté les abus et de l'autre les dangers. » Alors, vous voyez qu'il ne s'agit plus, il ne s'agit pas d'abolir l'esclavage. Il s'agit d'éviter qu'il ne se traduise par des traitements infamants et n'entraîne des révoltes qui seraient dangereuses pour l'État lui-même. Les recommandations de Montesquieu, ici, ne sont pas très éloignées des articles du Code noir. Parce qu'il faut agir avec prudence, il faut encadrer juridiquement l'esclavage. Dès lors, l'humanité dont on fera preuve à l'égard des esclaves ne relève pas tant d'une question de principe que d'une exigence pragmatique. Hein ? Je cite d'ailleurs Montesquieu au chapitre 16 du livre 15, tirée de son contexte, la phrase peut paraître même assez cynique. L'humanité que l'on aura pour les esclaves pourra prévenir dans l'État modéré, ce qu'il appelle un État modéré, c'est un État qui a des lois, contrairement à l'État despotique. Hein. Donc je reprends. L'humanité que l'on aura pour les esclaves pourra prévenir dans l'État modéré les dangers que l'on pourrait craindre de leur trop grand nombre. Les hommes s'accoutument à tout et à la servitude même, pourvu que le maître ne soit pas plus, pourvu que le maître ne soit pas plus sévère que la servitude. C'est réalisme. Et puis, vous voyez aussi le souci, ça, c'est vrai que c'est un problème que vont se poser les États qui emploient des esclaves dans les colonies au XVIIIe siècle, c'est leur nombre croissant. À la Jamaïque, par exemple, colonie anglaise, vous avez un nombre impressionnant d'esclaves. C'est même assez dangereux, si se mettait à se révolter, on passera un sale quart d'heure, hein. Vous voyez, c'est ça le problème. Bon, et c'est vrai qu'au fond, il y a ici un souci extrêmement réaliste, hein, du point de vue de l'État, hein, comment gérer finalement la question des esclaves. Eh bien, qu'est-ce que fait Montesquieu? Il préconise une gestion douce. Éviter les traitements beaucoup trop sévères qui risquent d'entraîner la révolte. Donc, loin de prôner l'abolition de l'esclavage, Montesquieu s'inquiète aussi. Et ça, c'est ce qu'il dit à la fin du livre 15. Il s'inquiète aussi d'un trop grand nombre d'affranchissements. Je cite, « Il ne faut pas faire tout à coup, et par une loi générale, un nombre considérable d'affranchissements. » Donc il faut plutôt des mesures graduelles qui s'étalent dans la durée. Et ce sera précisément le programme de la Société des Amis des Noirs, fondée en 1788 par Brissot, à la veille de la Révolution française, société philanthropique qui comprendra des hommes éclairés comme Condorcet, Lafayette, Mirabeau, Sieyès, le fameux Sieyès. Donc, c'est incontestablement cette deuxième partie du livre 15 qui expose Montesquieu aux critiques qu'on a pu lui adresser. À lui, d'ailleurs, comme à d'autres philosophes. Sur ses ambiguïtés. En cherchant à encadrer juridiquement l'esclavage colonial, il viserait avant tout à en perpétuer l'existence, pour le plus grand bénéfice des maîtres. Alors, Montesquieu, on l'a dit, est reconnu comme le premier grand philosophe des Lumières à avoir posé les principes théoriques de la dénonciation de l'esclavage. Son statut fondateur est-il vraiment mérité? La lecture du livre 15 de l'Esprit des lois ne le remet-il pas en cause? Et au-delà du seul cas de Montesquieu, les philosophes des Lumières ont-ils vraiment combattu l'esclavage? Alors avant de répondre à la question, je crois qu'il faut faire un certain nombre de remarques. Elles me paraissent nécessaires. Ce sera au nombre de trois, et j'en aurai terminé. D'abord, les critiques adressées aux philosophes des Lumières, qui dénoncent leurs ambiguïtés, procèdent souvent d'une illusion rétrospective. Une illusion rétrospective, par laquelle on raisonne comme si les Lumières étaient dès le commencement ce qu'elles vont devenir à la fin. Comme si elles étaient un État immuable, doté d'emblée de principes humanistes et abolitionnistes. Alors qu'elles sont au contraire un mouvement par lequel ces principes vont progressivement émerger. C'est-à-dire que les hommes du XVIIIe siècle n'avaient aucunement à l'esprit les droits de l'homme. Ça leur était complètement étranger. La traite négrière, ou alors, si vous voulez, vous avez vu comment il l'entendait. Hein, il y a une liberté naturelle, mais on peut s'en servir. La traite négrière et l'esclavage colonial ne leur posaient pas problème. Les théoriciens, les économistes justifiaient l'esclavage. Et quant à la souffrance des esclaves noirs, on n'y prêtait guère attention. Dans ce contexte, c'est bien, on peut dire que les Noirs étaient invisibles. Dans ce contexte, c'est tout de même bien Montesquieu qui soulève le premier le problème de l'esclavage, dans l'esprit des Noirs. C'est bien lui qui contribue le premier à sa prise de conscience. Deuxième remarque. Les Lumières ne se caractérisent pas par une doctrine homogène. Ainsi, l'encyclopédie, fondée par Diderot et d'Alembert, ne parle pas d'une seule voix sur ce sujet. L'encyclopédie est un lieu de débat où l'on trouve des articles favorables à l'esclavage, comme ceux d'un certain Boucher d'Argis, et puis aussi des articles qui lui sont opposés, comme ceux du chevalier de Jaucourt, dans deux articles très importants qui s'appellent « De l'esclavage » et puis l'autre « Sur la traite des nègres ». Alors le chevalier de Jaucourt, il faut en parler, d'ailleurs c'est celui qui écrit le plus d'articles dans l'encyclopédie. Eh bien, le chevalier de Jaucourt s'inspire très largement de la critique que fait Montesquieu de l'esclavage. Il recopie quasiment Montesquieu en bien des endroits. Mais il reprend sa critique, mais pour la dépasser, en un plaidoyer en faveur de l'abolition. Et le premier, au fond, c'est Jaucourt qui écrit le premier que l'esclavage est un crime atroce. Un crime atroce, je cite, « contraire à tous les droits de la nature humaine ». Toutefois, Jaucourt désespère que son plaidoyer soit entendu. En raison, je cite, « en raison de l'avarice et de la cupidité qui dominent la terre ». C'est ce qu'il écrit dans la conclusion de son article sur la traite négrière. L'opposition entre l'idéal humaniste et les intérêts économiques revient constamment dans le débat. Et c'est sans doute la contradiction qui travaille le plus le mouvement des Lumières. C'est ma troisième remarque. Parce que d'un côté, c'est vrai, les philosophes des Lumières, pour la plupart, celui qui a une distance critique par rapport à ça, c'est Rousseau. Les Lumières promeuvent le commerce, dont le luxe est le moteur. Car du progrès économique dépendent les progrès matériels, intellectuels et moraux du genre humain. Oui, d'un côté, elles promeuvent le commerce. Et puis de l'autre, elles dénoncent l'esclavage colonial, qui est pourtant une conséquence de ce progrès, en lui opposant des principes humanistes. Hein ? Le commerce, c'est le sucre tout de même. C'est le luxe. C'est pas un produit absolument nécessaire. C'est un produit qui va permettre de faire marcher le commerce, d'étendre le commerce, et d'enrichir cette petite élite qui se trouve dans les ports négriers. D'où l'accusation d'hypocrisie. L'accusation de double langage qui a souvent été adressée aux Lumières. Est-ce qu'elles ne cautionnent pas d'un vernis humaniste la domination coloniale ? Entre le progrès économique qui se fait surtout au bénéfice de quelques-uns et puis l'exigence de justice qui ne doit exclure aucun homme, il faut choisir. C'est en ces termes que Condorcet présente l'abolition de l'esclavage dans le texte qui lui consacre, qui sont les réflexions sur l'esclavage, publiées en 1781 sous le pseudonyme de Joachim Schwarz. Schwarz veut dire noir, évidemment, en allemand. Alors, je cite Condorcet et je terminerai ici sur cette citation. Et j'ouvre la discussion après. La destruction de l'esclavage ne ferait d'autre mal que d'empêcher quelques hommes barbares de s'engraisser des sueurs et du sang de leurs frères. En un mot, la masse entière des hommes y gagnerait, tandis que quelques particuliers n'y perdraient que l'avantage de pouvoir commettre impunément un crime utile à leurs intérêts. Alors, que conclure ? Est-ce que les Lumières ont été émancipatrices ou est-ce qu'elles ont plutôt couvert en quelque sorte la domination coloniale ? On peut tout de même dire qu'elles ont contribué à faire supprimer l'esclavage, qu'elles ont été émancipatrices et qu'elles ont donné aussi les moyens, au fond, aux hommes de critiquer la domination coloniale. Donc, sans survaloriser leur rôle, elles ont, oui, un rôle émancipateur. Je vous remercie. À vos questions.
J'en ai une petite qui est anecdotique un peu, mais je me demande comment ils se débrouillaient au niveau des États et de la religion pour prétexter une évangélisation des Noirs alors qu'il est considéré comme des choses.
Alors, il y a une petite contradiction.
Comment ils se débrouillaient avec ça, c'est pas...
Bah, ça portait effectivement... Ça
portait. Est-ce que tu peux peut-être répéter la question que...
Ah oui, c'est-à-dire en fait... ou alors je vous passe le micro. Le mieux, c'est de faire comme ça.
Merci. Non, c'est une petite question anecdotique, mais comme vous parliez au départ du prétexte d'évangélisation, qui a servi de base notamment au Code Noir et tout ça, je me disais, il y a quand même une contradiction. Oui. D'un côté, évangéliser des meubles, des biens meubles, des choses, ça ne tient pas la route, quoi. Mais comment ils se débrouillaient avec cette contradiction-là?
Oui, bien sûr. C'est clair qu'il y a une contradiction. Et qu'elle, je dirais, elle est lourde de danger. Parce qu'elle porte en elle la contestation, finalement, de l'esclavage. C'est clair. Mais bon, c'est vrai que Louis XIII, paraît-il, était hésitant.
Louis XIV.
Non, c'est Louis XIII qui a, comment dirais-je, validé au départ. L'esclavage.
1685.
Ah oui, ça c'est Louis XIV, c'est Colbert. Mais au départ, l'esclavage, disons que c'est fait avant 1685, de manière un peu hésitante. Bon alors, dans le document que je vous donne, là, vous verrez que, au fond, on en est venu à l'esclavage parce qu'on a raté, finalement, une colonisation par des travailleurs blancs, libres, hein, les engagés. Bon, mais ça marchait pas. Ça marchait pas, c'était trop dur, etc. Donc, les Portugais avaient pris de l'avance. Hein, c'était les premiers. Donc, on a finalement considéré qu'il fallait faire comme eux. Et c'est vrai que Louis XIII, paraît-il, était hésitant. Alors, d'ailleurs, comment il s'appelle, Montesquieu, il fait allusion à ça. Hein. Donc, c'est vrai que quand on lui a dit « Ah ben, c'est pour évangéliser les Noirs », « Ah ben, ok, alors ça c'est bon. » Bon, alors, on n'a pas de preuve tout à fait de cela, mais enfin bon, effectivement, c'est un problème. Et c'est pour ça d'ailleurs que Montesquieu retourne contre ces négriers chrétiens les principes du christianisme. Alors, je n'ai pas lu la fin du chapitre 5, vous verrez, c'est ça.
Concernant l'ironie considérée comme une arme pour dénoncer l'esclavagisme, est-ce que Montesquieu utilise cette ironie de la même façon pour d'autres sujets qu'il veut dénoncer?
Oui, ça leur arrive souvent. Hein. Là, j'ai pas d'exemple en tête. Bon, on connaît surtout l'ironie voltairienne, c'est sûr. Mais disons que Montesquieu utilise moins l'ironie que Voltaire parce qu'il est beaucoup plus philosophe, si vous voulez, en un sens. C'est-à-dire qu'il argumente. Ceci dit, il argumente de façon souvent assez elliptique. Hein. C'est pour ça qu'il est beaucoup plus difficile à lire que Rousseau ou Voltaire. Hein, il faut, je dirais, c'est au lecteur hein, de faire les enchaînements, en quelque sorte. Mais quand il considère que les arguments de l'opinion sont vraiment nuls, il ne prend pas la peine d'argumenter. Il ne mérite pas qu'on contre-argumente contre eux. C'est le sens de ce fameux chapitre 5. Hein? Parce que si vous voyez le contraste entre les chapitres précédents, où là, franchement, vous avez une argumentation assez serrée, avec quelques petites pointes d'ironie, tout de même, le chapitre 5, lui, franchement, c'est autre chose. Alors oui, dans l'esprit des lois, je vois moins. C'est surtout dans les lettres persanes. Dans les lettres persanes. Ouais, je vous ai donné, photocopié d'ailleurs un morceau. Les lettres persanes. Une lettre, vous savez, les lettres persanes, c'est donc une correspondance fictive entre deux persans, Usbek et Rika, qui se trouvent à Paris, qui voyagent à Paris, et qui racontent leurs impressions, évidemment. Alors, c'est assez tordant. Et dans une lettre, vous avez Rika qui écrit à Usbek, donc. Le petit passage que vous avez là, que je vais photocopier, en bas à droite. « Il me semble, Usbek, que nous ne jugeons jamais des choses que par un retour secret que nous faisons sur nous-mêmes. Je ne suis pas surpris que les nègres peignent le diable d'une blancheur éblouissante. et leurs dieux, noirs, comme du charbon. Alors là, c'est un très ramassé. L'ironie est toujours très ramassée, très condensée, très concentrée. C'est-à-dire qu'à la fois, il se moque de la superstition des hommes qui projettent sur Dieu leur propre image. Évidemment, les Blancs imaginent Dieu comme blanc et le diable comme noir, évidemment. Parce que le blanc, c'est le symbole de l'innocence. Mais les Noirs, ils font l'inverse. Mais alors, qu'est-ce que suggère aussi Montesquieu par cette ironie ? Que les Noirs et les Blancs se ressemblent, en fait. Ils ont la même manière de penser. Ils ne sont pas aussi différents qu'on pourrait le croire. Vous voyez ? C'est une façon assez habile de montrer que, franchement, la différence n'existe pas. Elle existe en couleur, c'est tout. Oui ?
Avoir lu que l'abolition avait été avait des raisons économiques plus que des raisons philosophiques.
Enfin. Alors là, je vais vous répondre que on ne peut certainement pas attribuer, aux Lumières la seule responsabilité de l'abolition. Ce serait un peu trop simpliste. Il y a eu un mouvement qui allait dans le sens de l'élaboration d'une opinion publique favorable à l'abolition. Ça s'est fait progressivement. On est passé de l'indifférence à la gêne, puis de la gêne au refus. Vous voyez ? Ça ne s'est pas fait tout de suite. Donc il fallait déjà, d'un côté, une conviction idéologique hostile à l'abolition, dans certains cénacles. Vous voyez ? Bon, et c'est vrai que les philosophes y ont contribué, on peut le dire. On peut le dire. Et à cela, il faut ajouter évidemment aussi que, d'une certaine façon, économiquement, c'était pas une bonne chose, l'esclavage. Bon, en fait, disons que là, il faudrait nuancer, parce que c'est, aux États-Unis, par exemple, c'est vrai que l'esclavage va se maintenir dans les grandes plantations, on a besoin de beaucoup de main-d'œuvre. Il n'y avait pas de machines. Hein. Et dans le nord du pays, où il y a de l'industrie, bon, il n'y a aucune raison de le maintenir, au contraire, c'est un obstacle au développement économique. Bon, mais vous avez raison, les deux. Mais, et puis j'ajouterai à ma remarque qu'au début du XVIIIe siècle, il n'y a pas ce qu'on appelle une opinion publique. Pour qu'il y ait une opinion publique, il faut un espace public de discussion, il faut qu'il y ait des journaux, il faut qu'il y ait une presse. Ça n'existe pas. Ça ne va commencer à exister vraiment qu'avec la Révolution française. Là, avant, vous avez quoi ? Vous avez des groupes, des cénacles, des salons que tiennent une certaine élite. Hein. Bon, évidemment, ça ne touche pas la grande masse de la population. Vous voyez ? Bon. Et puis, quand on regarde les cahiers de doléances qui sont formulés en 88-89, vraiment, la grande majorité de la population française ne s'intéresse pas à l'esclavage. C'est loin, d'abord. Bon, c'est loin. Hein, c'est une question qui ne concerne pas, franchement, la plupart des Français qui sont en métropole. C'est un fait. Petite poignée. C'est pas négligeable. Hein. C'est vrai que... vous avez raison. C'est sûr que si l'Angleterre n'avait pas la première... aboli l'esclavage, et puis il n'y avait pas eu aussi, attention, ce qui s'est passé à Saint-Domingue. Ça joue, hein. Donc il y a une conjonction de causes. Hein, pas une cause. Mais c'est vrai que, d'une certaine façon, les Lumières vont peser au sens où elles vont fabriquer une opinion publique qui est hostile à l'abolition et qu'il deviendra de plus en plus. Voilà, ça on peut le dire. Une question.
L'opinion publique est hostile à l'abolition.
Une opinion publique éclairée. Oui. Ce qui, c'était une minorité tout de même. Oui. Il n'y avait pas de journaux qui touchent la grande masse des Français, on est d'accord là-dessus.
Mais
favorable, excusez-moi, favorable. Non, non, j'avais c'est un lapsus, Ceci dit, vous savez bien, les expositions sur la traite négrière au Havre, hein, dans le port négrier du Havre, montrent qu'il y avait un courant de pensée tout à fait hostile à la suppression de la traite et à l'abolition de l'esclavage. Quand vous regardez le rôle d'un député comme c'est Bégoin ou Fouache, je ne sais plus lequel, hein, qui se bat à l'Assemblée nationale pour que, bon, tout de même, on n'abolisse pas. Et puis, vous savez bien que vous avez un futur maire du Havre, Jules Mazurier, qui a pratiqué la traite négrière alors qu'elle avait été abolie, alors qu'elle avait été supprimée. Il a continué à la pratiquer de façon illégale. Donc, vous voyez, il y avait une sorte de forte résistance. Ben, évidemment, c'est des personnes qui ne se posaient pas trop la question du sort des Noirs. Hein. On est bien d'accord. Bon, c'est vrai que... il y a aussi un problème économique. C'est peut-être que aussi à un moment donné, la traite négrière est devenue plus coûteuse que rentable. Puis aussi plus risquée, plus dangereuse. Non, puis même sur le plan maritime, c'était beaucoup plus difficile, puisque à partir du moment où ça devient interdit, si vous vous faites surprendre, vous êtes coupé. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs, je pense, pour un des bateaux de Jules Mazurier. Oui.
Est-ce qu'il y a des textes des autres philosophes des Lumières sur
Ah oui.
Le sujet.
Alors, moi j'ai privilégié Montesquieu parce que c'est le premier, mais vous avez Rousseau qui, d'une certaine façon, reprend ce que dit Montesquieu. Rousseau dans le contrat social. Ceci étant dit, Rousseau ne parle pas précisément, moins que Montesquieu, de l'esclavage colonial. Hein. Vous voyez ? Vous avez les encyclopédistes, qui sont des philosophes. Vous avez des penseurs à l'époque, je vous l'ai dit, qui ne sont pas tous acquis à l'idée de l'abolition, hein, faut le dire. Parmi les grands philosophes, Diderot, évidemment. Diderot, mais c'est plus tardif déjà. Diderot, la Bérénale, ils écrivent tous ensemble un livre, hein, l'histoire des deux Indes, bon, qui va jouer un rôle important, et où d'ailleurs coexistent les deux positions, esclavagiste et anti-esclavagiste. Bon, vous avez... évidemment, mais Condorcet, c'est plus tard. Là, franchement, c'est plus tard. C'est quasiment la Révolution française. Et Condorcet, effectivement, lui, se prononce pour l'abolition. Ceci dit... Il se prononce pour l'abolition, mais une abolition graduelle. Et pourquoi une abolition graduelle ? Parce que, alors là, je vous donne l'argument, si on émancipait brutalement tous les esclaves, on les mettrait en difficulté. Ils ont tellement été abrutis par l'esclavage qu'ils ne seraient pas capables d'être autonomes. C'est un argument qui joue. Hein, alors, vous voyez, il peut être retourné, évidemment, cet argument. Il peut devenir un argument très paternaliste, hein, qui permet de justifier la pérennisation de l'esclavage. D'ailleurs, regardez bien les mesures politiques adoptées tout de suite par les hommes d'État, par les hauts fonctionnaires de la République, de la Seconde République, dès que l'esclavage est aboli en 1848. Attention, il ne faudrait tout de même pas que ces gens-là soient livrés à eux-mêmes. Puis bon, on veut aussi maintenir la structure économique et sociale des îles, hein, des grandes plantations. Donc, il y a quand même une surveillance à ce moment-là exercée à l'endroit des anciens esclaves devenus travailleurs libres. On les contrôle. Ouais. Voilà, ça c'est. Et ça va durer longtemps. Cette mentalité. L'esclavagiste, elle va peser très longtemps. Et pendant très longtemps, on va associer à la couleur noire l'esclavage. Comme le dit très bien Tocqueville, d'ailleurs, un très beau texte à la fin de sa première partie de La démocratie en Amérique, où il réfléchit sur la question de l'esclavage des Noirs, justement en Amérique, alors qu'il justifiera par ailleurs la colonisation algérienne. Bon, enfin, il est colonialiste en étant anti-esclavagiste. Et eh bien, qu'est-ce que montre Tocqueville? C'est, alors, il y a une très belle formule qu'il faudrait que je vous retrouve, je ne peux pas la citer comme ça. Il dit, au fond, que, d'une certaine façon, l'esclavage, imaginairement, se maintient à travers l'association qu'on fait entre son souvenir et la couleur noire. C'est-à-dire, les discriminations raciales sont le vestige de l'esclavage qui a, en quelque sorte, dominé, qui a longtemps réglementé les mœurs. Vous voyez ? Donc, alors, c'est pour ça on dit parfois, c'est parce que les Blancs étaient racistes qu'ils ont pratiqué l'esclavage colonial. Je crois que la question ne se la posait pas tout à fait dans ces termes. Il faut éviter les illusions rétrospectives. Moi, je dirais plutôt que c'est l'esclavage colonial qui a engendré ce qu'on appelle le racisme. Puisqu'on a associé, effectivement, la condition des Noirs à l'esclavage. Longtemps après que l'esclavage a été aboli. Vous voyez ? Et ça, c'est ce que montre remarquablement bien Tocqueville. C'est pour ça que, vous voyez, en Amérique, quand l'esclavage a été aboli, eh bien c'est là que les discriminations raciales se sont développées. Il était insupportable qu'on soit à égalité avec des hommes qui avaient été esclaves. Donc la ségrégation était nécessaire. Surtout dans le Sud, où il y avait eu beaucoup d'esclavage, des grandes propriétés agricoles. Donc vous voyez que c'est pas une injustice passée comme ça qu'on peut supprimer d'un coup de baguette. Ça subsiste, ça persiste. Oui ?
Comment vous expliquez qu'un certain nombre d'auteurs actuels qui critiquent le processus tombent dans l'illusion rétrospective ? Parce qu'en fait, c'est ça qui ne tient pas du compte du contexte historique de l'époque. Est-ce que il y a une position de la société ? Il ne pouvait pas non plus...
Alors, disons que je ne voudrais pas avoir l'air de les présenter comme des gens un peu naïfs non plus. Hein. Ce serait un petit peu injuste et excessif. Je pense, par exemple, je pense à ce livre de Salamonin. C'est vrai qu'd'une certaine façon, il se met à la place des opprimés. Voilà. Et il s'insurge contre ces grands discours. Et il s'insurge surtout contre le culte qui est voué aux philosophes des Lumières que l'on célèbre toujours comme ces grands seigneurs qui ont libéré l'esprit, qui ont libéré les hommes du préjugé, et ayant libéré les hommes du préjugé, eh bien, ensuite, on a libéré les esclaves de la servitude. Et ils s'insurgent contre cette vision paternaliste que l'on donne de l'abolition. Et moi, je vois, par exemple, dans le film de... Vous savez, cet Américain assez connu qui avait fait un film sur Lincoln, Spielberg. Vous voyez, ce film-là est tout à fait significatif. Il célèbre la figure de Lincoln, grand esprit éclairé, qui va libérer les Noirs de l'esclavage. Il dit à peine grand, très peu de choses des Noirs dans leur propre libération. C'est toujours le Blanc qui a libéré le Noir. Le Noir, lui, n'a rien fait. Il a reçu. Et ça, si vous voulez, cette vision paternaliste, vous voyez, de l'histoire, de l'abolition, qui est tout de même, à laquelle on associe, vous savez, la philosophie des Lumières, effectivement, peut paraître insupportable. On oublie d'ailleurs que Toussaint Louverture et d'autres, d'une certaine façon, ils étaient pétris par les idéaux des philosophes aussi. Hein, c'est pas la propriété seulement, vous voyez, des Blancs européens.
Ils l'avaient lu.
Alors, je ne sais pas. Là, je ne peux pas vous dire. Je ne peux pas m'avancer. Hein. Je ne peux pas m'avancer, si vous voulez. Mais oui, enfin, en tout cas, on n'avait pas la télévision. Lisez plus. je crois que certains Noirs, c'était rare, je crois que Toussaint Louverture avait appris à lire. Il lisait. Bon, c'était pas un homme parfait, hein, faut pas non plus lui vouer une statue, hein. C'est assez opportuniste, si vous voulez. Mais il n'est pas tout seul, je parle de lui, non pas en tant que personne, mais en tant que en ce qu'il représente, si vous voulez.
Il a eu quand même le mérite de casser un peu les codes, comme on dit maintenant.
Oui.
D'ouvrir les portes. Et
oui.
Ça, c'est une liberté extraordinaire. Oui. Quoi. Vous ouvrez une porte, alors d'abord, il y a des gens qui sont gouffres, qui sont pour, qui sont contre, mais c'est quand même c'est fantastique.
Bah, il faut un grand courage.
Enfermé et muré.
Tout fait. Enfin, bon, voilà. Il faut un grand courage pour secouer les chaînes. Et alors, tout seul, l'ouverture va terminer sa vie dans le Doubs, dans une prison du Doubs, hein, dans le froid, isolé totalement. Donc il ne va pas participer à la révolution qui va permettre à la fondation de la première république d'Haïti. Enfin, c'est un de ses collègues, un de ses amis qui participe à ça, mais en tout cas, il est arrêté, je pense. Il a été général français, hein. Haïti, Saint-Domingue, c'était la plus grosse île française. Hein, c'était la grande île.
Et le Havre, c'était que avec Saint-Domingue qu'il faisait du commerce.
Je ne suis pas sûr. Enfin, avec la Guadeloupe aussi, non? Je ne sais pas. Moi, je... faut que vous lisiez ça. Vous avez plusieurs articles. Oui? Oui, oui, bien sûr, bien sûr.
Et c'est un peu ça, paraît-il, qui a enclenché le processus.
Tout à fait. Non, il y avait bien sûr qu'il y avait, des rois, des autorités locales qui eux-mêmes, effectivement, profitaient de ce commerce. Hein. C'est certain. Alors là, le problème, c'est qu'ils ne constituaient pas des nations, hein, mais des tribus. Donc effectivement, les Blancs pouvaient jouer déjà de leurs oppositions. Ils pouvaient. Il y avait. Bon, là, il faudrait regarder les articles des historiens. Je pense que parfois. Ben, ça durait longtemps. Hein, les bateaux, ils restaient parfois 3 mois, 4 mois, hein, à attendre l'embarquement des Noirs. Et il fallait parfois faire des incursions à l'intérieur des pays. Hein, pour aller les chercher. Hein. C'était pas une mince affaire. Hein. Ouais, ça rapportait pas toujours bien. Alors, parfois, il faut dire qu'ils se révoltaient. Il y avait une... C'était la... Bon, vous voyez. Il y en avait trop qui mouraient, parce qu'il ne faut pas perdre la marchandise. Alors, il fallait les maltraiter, mais pas... On ne pouvait que les maltraiter, mais pas trop, parce que sinon, effectivement, bah, il n'était plus utile. Oui ?
Est-ce qu'il y a d'autres ouvrages que celui de Salam Olas qui ont justement...
Alors, je pense qu'il y a... d'abord, des historiens, je crois... Là, je ne sais pas les titres des ouvrages. Une certaine Nelly Schmidt... Une historienne, bon, enfin, si vous voulez, c'est plus des philosophes, regardez, c'est un certain Laurent Estève, qui, au fond, enfin, disciple de Salam Olas, hein. Enfin, c'est Salam Olas qui a surtout lancé son livre, là, la référence. Donc, c'est une lecture précise des différents articles du Code Noir, c'est très précieux, et après, à la fin, vous avez un certain nombre d'articles qui règlent leur compte, si on peut dire, aux différents philosophes, à commencer par Montesquieu. Et alors, il y a Rousseau, après. Après Rousseau, il passe à Diderot, Condorcet, etc. Oui ?
Comment expliquer que le rétablissement de l'esclavage par Bonaparte,
c'est un document de s'appelle Des routes de l'esclavage.
Ah oui.
Qui est ici à la bibliothèque et que je conseille
d'avoir. Oui. Merci, hein. Merci beaucoup. Oui, allez-y.
Quand Bonaparte a rétabli l'esclavage en 1802,
oui.
Comment s'est passé, comme une lettre à la poste ou...
Ah bon, là, il faut se rappeler du contexte. Bon, je ne suis pas historien, mais enfin, j'ai quelques idées là-dessus. D'abord, il a épousé qui ?
Joséphine de Beauharnais.
Joséphine de Beauharnais de la Tacherie.
C'est celle qui a
la Tacherie qui était une béquée, enfin de la Martinique, hein, effectivement. Bon, ça, déjà, il était lié au milieu colonial. Et puis, à l'époque, vous êtes à la fin de la Révolution française, tout de même. Vous avez toute une certaine bourgeoisie montante. Et qui n'a pas envie de revenir à l'Ancien Régime, parce que sinon il faudrait remettre en cause les biens qu'elle a acquis grâce à l'Église, hein, la vente des biens nationaux. Donc ils ne veulent pas non plus la Révolution, ils ne veulent surtout pas que le peuple reprenne les armes, c'est clair. Donc ils veulent conserver leurs acquis, leurs privilèges, si on peut dire, en disposant d'un pouvoir fort. C'est pour ça que Bonaparte a pris le pouvoir, qu'il a fait son fameux coup d'État. Vous voyez ? Donc là, on est dans une période où de réaction, où effectivement Bonaparte va en profiter, hein, pour revenir effectivement sur ce que la Révolution française avait promulgué. Mais ceci dit, c'est évident. Hein.
Mais il était contre l'esclavage. Il était contre l'esclavage.
Oui. Certes. Non, mais c'était pas un imbécile, ça c'est sûr. Ça c'est clair, on est d'accord.
C'est le contexte international à l'époque, oui. avec la guerre, l'Angleterre, sur les îles.
Je vais vous dire, le contexte international a toujours existé. Pour justifier avant le maintien de l'esclavage. De toute façon, c'est vrai que ça joue. On peut pas réfléchir sur cette question indépendamment des enjeux économiques, politiques, sociaux, etc. etc. Ça c'est sûr. Moi, si vous voulez, je suis obligé de borner mon propos.
Oui. Oui.
Une dernière question, peut-être, ou une deuxième, deux, trois questions, comme vous voulez. Hein. Alors, je rappelle. Là, j'ai une sorte d'éléments d'information que j'ai élaboré à partir d'articles d'historiens. Et aussi d'articles d'histoire. Et ça peut vous aider. Moi, ça m'a permis de voir clair un peu sur le plan historique. Et puis, bon, vous avez le plan, et puis vous avez les extraits de texte, j'en ai pas donné trop, sur lesquels je me suis appuyé. Donc, vous avez ces documents. Vous avez aussi les flyers qui présentent Philopop, on fait de la pub. J'en fais au lycée Claude Monet, je fais des séances et un programme annuel avec une œuvre, la lecture d'une œuvre. Cette année, c'est Schopenhauer. Et puis, un thème, le temps, cette année. Tous les ans, ça change. Et des séances qui ont lieu deux fois par mois à peu près, en alternant le thème, l'œuvre, sur l'année. Et c'est au lycée Claude Monet à 20h30. Et sinon, en plus, je fais une émission radio sur Westrack. Mais indépendamment d'un thème, là, c'est selon. C'est en fonction un peu d'actualité. Par ailleurs, je viens ici, en général, deux fois l'année. Voilà.
Les cours sont sur le site de Philopop.
Oui. Vous avez, sur le site de Philopop, vous avez toutes les informations.
Y compris les cours en russe.
Et les cours, c'est ça. Vous avez des vidéos, un tas de choses. Voilà. Je donne à chaque fois un plan. Un plan avant les séances. Ça aide. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci.